Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour.
Dans le numéro de septembre-octobre de la NRF, on trouve notamment un article consacré au livre de Serge Loupien. C'est un article de vous d'ailleurs, Serge Loupien, que vous surnommez le conteur de l'underground français. Je pensais que c'était vous, moi.
Oui, moi aussi. Non, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est un peu un intérêt générationnel, je dois le dire.
Ah, vous parlez de quelles années, alors, éclairer nos auditeurs.
Je parle des années 70-80, qui sont l'objet du livre de Loupien, qui a été donc le grand mage de la critique rock à Libé depuis le début de Libé. Il s'est arrêté il n'y a pas si longtemps, il a presque 30 ou 40 années de bons et loyaux services au service du rock'n'roll dans Libé. Et donc il a fait un livre sur cette séquence, cette double décennie, 70-80, qui a été en France, je peux en témoigner en tant qu'ancien lycéen, extrêmement...
Et ancien rocker.
Et ancien rocker, absolument, a été très très importante. Et ce qui est tout à fait curieux et étrange, c'est que cette histoire a disparu sans laisser de traces. Le rock en France aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation. Il y a une zone d'ombre, une zone de brume qu'il fallait percer.
La France s'illustre dans la musique électronique. On ne peut pas être partout.
On ne peut pas être partout, mais en tout cas, c'est intéressant, et c'est ce que Loupien a fait très bien, de raconter ce qui avait mis en mouvement tous ces petits groupes qui vivaient à la fois à la campagne, tondaient les brebis tout en composant du hard rock. ça m'a beaucoup intéressé d'entrer dans la mémoire de cette histoire qui a occupé une place énorme dans la vie quotidienne des jeunes. Enfin, je passais 10 fois plus de temps à écouter des groupes que dont vous n'avez jamais entendu parler.
Monsieur.
Gong.
Ah non.
Red Noise, d'autres. Et donc, ça valait la peine dans la NRF. De faire ce petit travail d'excavation.
Alors toujours dans la NRF, Vincent Ravalec va excaver encore plus loin, lui, il va excaver jusqu'au temps des cathédrales.
J'ai une grande sympathie pour Vincent Ravalec, qui est un garçon extrêmement joyeux et qui a une façon de parler de ce qu'il aime, ou de ce qu'il n'aime pas d'ailleurs, mais toujours avec une sorte de tonus, et qui me plaît beaucoup. Alors je lui ai proposé très simplement de d'écrire quelque chose. Je n'avais pas de sujet précis à lui proposer, mais j'étais certain qu'il allait en trouver. Effectivement, il fait pas bien que Alain Finkielkraut pourrait aimer avoir écrit, on va lui envoyer, sauf qu'il a été écrit par Vincent Ravalec et que ça rend un son très différent.
Donc c'est sur
un souci du patrimoine, un souci du passé qui nous accompagne et qui n'est pas un poids lourd, mais au contraire un gisement d'énergie, de force, d'envol, de rock'n'roll.
Voilà. Un mot peut-être sur Philippe Ross, qui est beaucoup présent aussi dans la NRF. D'abord, vous l'évoquez dans votre éditorial, et puis aussi Marc Poré, qu'on connaît bien, nous, ici, à la Compagnie des auteurs, vous a donné un texte intitulé « Ross délivré ».
Oui, c'était. Ça nous ramène à Toni Morrison, par un certain biais, d'ailleurs. Mais ça m'intéressait d'évaluer le vide que laisse Ross après sa mort. D'où le titre de l'édito, La succession Philippe Ross. Philippe Ross a tort ou a raison, mais enfin, je pense à incarner dans ses livres une certaine voix de l'Amérique. Quand Ross écrivait un roman, on avait l'impression que c'était toute l'Amérique qui était concernée. Quand il disait nous, c'était nous l'Amérique. Ma question, je ne sais pas si elle intéresse tout le monde, mais c'est une question en tout cas que je me pose, est-ce qu'il y a maintenant encore une place pour ça? Est-ce qu'il y a un écrivain ou une...
Est-ce que Toni Morrison pourrait prendre cette place-là?
Toni Morrison,
peut-être qu'elle représente peut-être pas justement toute l'Amérique.
Toni Morrison, c'est Ella Fitzgerald. Et c'est énorme. Je dirais pas que, enfin, elle incarne quelque chose, Toni Morrison, et comme Ella Fitzgerald incarnait quelque chose, j'y ai pensé en vous écoutant là, à l'instant, mais En même temps, je n'irai pas jusqu'à lui donner le rôle symbolique que Philippe Roth a eu.
Vous êtes d'accord avec ça, Annie-Paul Mielle de Prinsac?
Écoutez, plus ou moins. En même temps, elle serait désolée parce que elle a bien revendiqué son titre d'américaine avant tout, y compris en 2001.
Elle a dit aussi qu'elle ne s'était jamais sentie américaine.
Ben oui, le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'elle joue beaucoup, elle dit une chose et une autre. Je crois que malheureusement, ça serait la preuve qu'elle n'a pas été comprise comme elle aurait aimé l'être. Mmh. Et c'est la preuve qu'il reste ce degré de racisme qui fait qu'on en fait une romancière noire avant d'en faire un écrivain.
Je pense qu'elle a été... Enfin, je me souviens des premiers livres que j'ai lus d'elle, il y a une vingtaine d'années, je me souviens. Ce qui était frappant, c'était que, justement, elle rompait avec l'enclos. Et comme Ella Fitzgerald... Enfin, je compare toujours avec Ella Fitzgerald, parce que ça me fait toujours plaisir de parler d'Ella Fitzgerald, mais c'est un peu la même affaire. Il y a une telle puissance littéraire, là, derrière, que... le côté romancière noire en devient presque dérisoire, en devient presque
décalé. Je crois qu'en plus aujourd'hui, elle nous parle directement, parce que nous sommes, tout ce qui se passe en Europe, si vous lisez son œuvre, si vous le prenez pour nous, je pense qu'on a tous le même problème à vaincre et à résoudre.
Je pense qu'il faudrait organiser une conversation entre vous dans la NRF, Michel. Pensez-y pour un prochain numéro.
J'y pense déjà.
À très bientôt, Michel. Merci.